couvert pour faire des essais. Et donc, on invitera et on fera de la publicité pour que voilà, ceux qui veveulent essayer viennent découvrir ce sport pour, pourquoi pas, intégrer une équipe ou les équipes, puisque donc l'objectif est aussi de développer ce sport et de créer de nouvelles équipes, et mixtes, et pourquoi pas féminines, et bien sûr compléter l'équipe masculine.
Bien, merci beaucoup à Guillaume Desgranges pour cette présentation du Brown Ball.
Merci beaucoup.
Et des championnats d'Europe qui vont donc se dérouler à Angers de 8h à 20h le samedi et le dimanche. N'hésitez pas à venir nombreux à l'Ice Park. On va donc clôturer l'émission. Avec, je te laisse la parole, Max.
Ouais, merci Alex, merci Guillaume pour cette intervention. Juste avant de clôturer l'émission, un petit rappel, Wissam a dû nous quitter en pleine émission. Il nous a rappelé donc que le dimanche 8 décembre prochain, lors du match opposant donc les Yankees face aux Caïmans du Mans, le club des Yankees fera un appel aux dons et tous les dons récoltés durant cette rencontre seront reversés au Téléthon.
Voilà, donc on termine rapidement cette émission, le temps de préparer le générique. Un grand merci donc à Guillaume, comme tu disais, pour nous présenter donc cette compétition de Brown Ball. Merci à Sébastien, Pierre et Nicolas pour être venus nous parler cette association des colosses au pied d'argile et puis du partenariat que vous avez signé avec l'équipe de floorball de Bushmen. Et merci aux gars donc pour votre chronique. On se retrouve donc la semaine prochaine à 20h sur le 101.5 de Radio G ou www.radio-g.fr. Et puis on vous laisse en compagnie de toute l'équipe d'Imaginaire.
Géant quoi dans l'émission d'avant. Ouais, allez, ça y est, j'ai récupéré mon micro. L'équipe d'Imaginaire à fond sur le 101.5 jusqu'à 22h avec Bess qui va nous parler de quelle héroïne ce soir ?
Peut-être pas d'une héroïne ce soir. L'héroïne. Je vais faire une chronique Halloween. Un peu spéciale.
D'accord.
Non, inintéressant.
Donc Pierre-Marie, super. Qu'est-ce que tu vas nous raconter de
un
plus intéressant ?
Un truc
inintéressant. Non, mais en plus, je pars sur la série B, série Z, littérature. Bien, j'ai mal perturbé, de nouveau, parce que je me tape un délire mal perturbé ces temps-ci. Donc, et c'est l'éditeur. Le rappeur Oberlander. des nazis et des reptiliens. Le fun. Et après, donc, nous avons une guest star qui est ici, notre bénévole.
Bon, il n'y en a pas qu'un, heureusement.
Bon, pas qu'un, mais il est là depuis le début. Antoine qui vient et on va parler avec lui de jeux de société, puisqu'on va parler de quel jeu ?
On va parler d'Horreur Arkham, mais version jeu de cartes, qui reprend l'univers de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, en version jeu de cartes à deux joueurs.
Donc okay. On reste sur le principe d'Halloween.
Ouais, et puis on va causer aussi pas mal le Cthulhu, moi je prononce comme ça.
Alors nous, moi c'est Cthulhu.
On va diffuser l'interview de Karim Berouka qu'on a enregistré il y a deux semaines à la librairie Richer.
Il fait partie de la team Cthulhu lui aussi.
Ouais. Voilà, et puis en fin d'émission, on parlera des Utopiales quand même, qui est le gros événement science-fiction qui se déroulera à partir de jeudi, là, à la Cité des Congrès à Nantes. Tyrannosaurus Imperium est en vacances, donc on va s'écouter un petit peu de musique pour commencer. Youpi, youhou!
Sulla tua come la bocca di una colt e nei baci che do tutto è fuoco così puoi bruciare su dai sono pazza perché nasce in me la spirale più forte di me quando c'è la spirale la vita non conta più ucciderei subito sono pazza sì sono pazza perché perché c'è senza fine questo conta questo solo vale perché nasce in noi la spirale.
Un petit extrait de la BO de La dixième victime, un film d'Elio Petri sorti en 1965, qui était tiré d'une nouvelle de Robert Sheckley, ça vous dira peut-être plus quelque chose, et qui raconte l'histoire d'un... C'est dans le futur et tout, et les gens doivent se chasser un petit peu les uns les autres et tout. C'est un petit peu comme ça qu'on gère la population mondiale. Et parmi ceux qui nous intéressent dans ce film, c'est Ursula Andress et Marcello Mastroianni, quand même.
Pas n'importe qui.
Et donc, BO typique d'époque italienne de Piero Piccioni avec Mina, une chanteuse. J'ai regardé, elle a commencé le premier album en 1960 et elle sort encore aujourd'hui des disques. Donc, Mina, voilà, bon anniversaire, chanteuse italienne assez populaire apparemment. Et c'est l'heure de la chronique de Bess. Alors, ce film, ouais, je l'ai dit quand même qu'il passait aux Utopias le week-end prochain. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais choisi cette BO, les Utopias, on en reparlera en fin d'émission. C'est l'heure de la chronique de Bess.
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter. Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers. Alors, pas de portrait d'héroïne aujourd'hui. Nous sommes le 29 octobre, ce qui signifie que dans deux jours, c'est...
Halloween. Noël. On en parlera un petit peu en fin d'émission aussi.
C'est Halloween, pour ceux qui ne suivent pas.
L'étrange Noël de Mr. Jack.
Si tu veux.
Si tu veux, oui. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que les gens aiment bien faire à Halloween ? Ils aiment bien...
Se déguiser.
Et surtout se faire peur.
Ah ben.
Alors pourquoi pas conseiller quelques bijoux du cinéma d'horreur ? Oui, pourquoi pas, mais aussi pourquoi ? Après tout, on pourrait aussi mettre en garde les gens contre les films à éviter à tout prix. Mm-hmm. Les films à fuir, à bannir, à jeter au feu.
Comme Marie. Marie à tout prix.
Oh mon Dieu, qui l'a invité celui-là ?
Hein, Antoine, c'est qui ton invité là ?
Je sais pas.
Il a vu de la lumière, il est rentré.
Il avait les clés, mais...
Il avait les codes aussi. Fou.
Donc pourquoi ne pas parler de ces films ou ces séries d'ailleurs qui sont trop lents ou trop mous, dont le scénario tient sur un post-it, qui relève du déjà vu ou qui sont juste nuls. Donc ce soir c'est parti pour des anti-recommandations d'Halloween. Laissez-moi vous aider à éviter les pièges des films et séries ratés. On va commencer avec quelques séries. Très récemment, Netflix nous a sorti une série d'horreur à la française intitulée Marianne. Donc déjà,
ah oui.
C'est français, donc on se méfie hein, tout de suite. Alors, je vous raconterai bien l'histoire, mais je n'ai pas été au bout de la série, j'ai abandonné épisode 3. Oui, je me suis accrochée quand même 3 putains d'épisodes. L'héroïne est insupportable. C'est une auteure, une autrice, égoïste et vite fait alcoolique, hein, avec une mèche de cheveux plus longue que l'autre, parce que c'est trop une rebelle de la life, et elle traite tout le monde comme de la merde, et il y en a que pour sa gueule. Donc difficile d'avoir de l'empathie pour elle. Et puis, qu'est-ce que c'est mal joué, quoi. C'est pas cette année qu'on sera nommé au Emmy avec une série pareille. Bref, c'est dommage, car ça parlait sorcellerie avec une héroïne de caractère, mais c'est complètement foiré. Une petite deuxième série à éviter comme la peste, The Walking Dead. Alors je sais qu'on en est à la saison 40 environ, hein, mais si vous aviez prévu de vous y mettre, passez votre chemin. Vous accrocherez sans doute à la première saison,
en un temps,
peu moins à la deuxième.
Je crois qu'ils font une saison à chaque comics, enfin relié qui sort
de plus de 600 ouais, tomes maintenant.
10 pages et ils mettent, ils font une saison et les comics on doit être presque aux 30 là, je crois donc. Ouais.
Parce que c'est le gros souci de cette série, c'est que ça s'étire en longueur, c'est assez mou. Et donc, à la fin, on finit par hate-watcher la série. C'est des intrigues qui pourraient être bouclées en un épisode, elles le sont en 3. Donc, à la fin, on implore que les zombies viennent tous les dévorer. Donc, c'est mieux de lire la BD, qui, je crois, est terminée d'ailleurs maintenant, ah il me semble.
Oui, ils sont passés sur Oblivion, un autre comics.
Kirkman a toujours fait plein de trucs en même temps. Alors, je vais checker ça, quand même. Bon, puis il y a les préquels aussi. Non, à la série télé, peut-être.
Il y a Fear the Walking Dead, qui est pareil, je pense, à pas forcément regarder. Ou alors, une soirée beurrée entre potes pour se marrer. Mais...
Mm. Bon, on va éviter alors.
J'en avais fait la chronique, comme quoi on m'écoute.
Et j'en ai une dernière série à ne pas vous recommander pour la route. C'est la grande série American Horror Story. Si vous aimez être déçu, cette série, elle est pour vous.
Cette série. Tout.
Moi, je me suis accrochée à pas mal de saisons avant de finalement la ranger aux oubliettes. Et en vérité, ce qu'il y a de mieux dans cette série, ce sont ses teasings et ses génériques qui, eux, sont par contre très réussis. Le problème, c'est les scénarios, c'est l'absence d'histoire correcte. Côté ambiance, on y est à peu près, mais Ryan Murphy n'a rien à nous raconter et on finit par s'ennuyer à mort. Mais vous devez aussi éviter certains films pour Halloween. Le premier d'entre eux, sur lequel je mets un énorme warning, c'est Paranormal Activity. Alors, je critique ce que j'ai vu, et j'ai vu tous les films de la franchise.
Waouh.
Au nom de la science. Il y en a peut-être 5 ou 6. Alors, le premier d'entre eux, c'est... Comment dire ? C'est extrêmement bien marketé. Hein. Il a été vendu comme le film qui fait peur. Ça a fonctionné du feu de Dieu. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui croit sa maison hantée et pose ses caméras pour capter Casper en direct. En vérité, il ne se passe rien. On voit des gens qui dorment et 3 portes qui claquent, et c'est tout. Voilà, donc mon analyse très fine, c'est que c'est nul. Nul, nul, nul. C'est une méga arnaque. Tiens, et en parlant d'arnaque justement, parlons de M. Night Shyamalan. Mais si, le réalisateur de Sixième Sens avec Bruce Willis, rappelez-vous. Il a commis bien d'autres films. Mais surtout, The Visit. Ce film, bon, le pitch est pas très mal, hein. C'est deux gamins qui vont chez leurs grands-parents pour les vacances, et ils vont s'apercevoir qu'il y a un gros truc qui cloche. Parce que les deux anciens, là, ils agissent assez bizarrement. Alors sur le papier ça sonne bien, mais le twist est pas si mal que ça. Mais en pratique, Shyamalan nous fait le coup de la caméra subjective et c'est d'un relou. Donc à la place, allez vraiment voir vos grands-parents si vous les avez encore et extorquez-leur quelques bonbons. Allez, je vous en fais un petit dernier film qui s'appelle Eli. Il est actuellement sur Netflix. C'est l'histoire d'un petit garçon qui doit vivre dans une bulle, hein, parce qu'apparemment il est malade, et ses parents l'emmènent subir un traitement révolutionnaire dans une clinique assez chelou. Donc, il y a quand même la présence de l'actrice anglaise Kelly Reilly. Alors, Kelly Reilly, mon numéro de téléphone, c'est le 0632... Pardon, excusez-moi. Le film ne fonctionne pas des
attends,
masses.
Attends, hein. Je ne te l'ai pas noté, vas-y, redonne.
Alors, le film est plutôt paresseux, et mon Dieu, ce twist, les enfants, ce foutu twist qui fait s'effondrer tout le film. Alors, est-ce que je vous le donne ? Bon, je vous le donne, c'est cadeau, de toute façon, vous n'allez pas regarder ce film. Donc, le petit, en fait, il n'est pas malade, c'est l'enfant de Satan, et ses parents doivent l'exorciser. Voilà, de rien, c'est un plaisir pour moi de vous le dire. Donc, en résumé, pour Halloween, n'hésitez pas à vous réfugier dans des valeurs sûres. Évitez les films trop mainstream et méfiez-vous surtout des promos. Ruez-vous sur le cinéma d'horreur asiatique ou espagnol, par exemple. Alors là, j'en aurais plein à vous conseiller. Et on va terminer en musique avec notre gilet pare-balles, avec Bulletproof de Larou. Midnight, don't not mess around.
Ouais, et en parlant de spoil, donc moi je me suis spoilé la fin de The Walking Dead en fait. Hein,
en cherchant,
voilà, et effectivement, ouais, la fin de la série avait été annoncée début juillet et voilà, il y aura un épilogue, tout est sorti en France, enfin un épilogue qui sortira le 2 janvier 2020. Est-ce qu'on parle un petit peu des actus de l'association avant d'écouter l'interview de Karim Berouka ?
Bah écoute, justement parce que a priori vous en aviez parlé, mais Karim Berouka sera peut-être des nôtres.
Donc, non mais peut-être des nôtres, à quoi ?
Et bah justement c'est ça.
Le... à quoi ?
Et bah en fait on a enfin les dates pour notre prochain salon, ça tombe bien, c'est dans 6 mois. Et ouais, le 2 et le 3 mai. Alors réservez sur vos agendas, 2 et 3 mai au Grenier Saint-Jean, l'association Imaginaire fait sa 10e édition.
Très bien.
Cool.
Et sur le thème de l'insurrection.
Et il y aura un recueil de nouvelles qui sortira à cette occasion sur le thème de l'insurrection.
D'ailleurs, l'appel à texte finit après-demain.
C'est soir. Voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire
dans les deux jours à venir,
voilà, dans votre soir, pour votre soirée d'Halloween,
prendre 25 000 signes maximum.
Vous pouvez écrire
25 000
une nouvelle.
Signes, plus ou moins 10%, mais maximum. C'est-à-dire que si vous, on a reçu des nouvelles à moins de 5 000 signes, hein, ça pose pas de souci. Vous pouvez vous le tenter. Les haïkus sont acceptés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être récompensés, mais vous pouvez essayer.
Allez, on passe à l'interview de Karim Berouka qu'on avait réalisée. Donc, on l'avait interviewé avec Romuald. C'était à la librairie Richer il y a 2 semaines, juste avant la sortie du nouvel album de Ludwig von 88. Et on s'avait commencé par des lectures des textes de Karim, déclamés par Nicolas.
Oui, Nicolas.
Le libraire, le patron de la librairie Richer, je sais pas trop. Et donc, voilà, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Je vais te faire un coup de ce que j'ai fait. Toi, au Karim Berouka, qui es-tu ?
Je vais à Karim Berouka. Voyons. Et donc, j'ai écrit des poèmes, là, comme celui-là, qui sont en fait des chansons, et puis des romans. J'ai écrit 3 romans, ou 4, je ne sais plus. J'en ai quelques-uns que j'ai écrits, que je laisse dans les tiroirs, parce que j'ai honte de les avoir écrits. Et puis, pas mal de nouvelles depuis une quinzaine d'années, quoi. Donc.
Ouais, un petit peu plus, en fait. Hein.
Un peu plus, ouais, j'ai commencé à écrire à 16 ans, mais à part ma mère, personne n'a lu le truc que j'ai écrit à 16 ans, et bon, c'est gentil.
Donc là, en termes d'actualité, tu as cette année celle qui n'avait pas peur de Cthulhu qui est sortie en poche.
Cette année, j'ai rien glandé, je suis désolé de vous dire ça, mais voilà, c'est le dernier roman en date qui est sorti l'année dernière et qui vient de ressortir, effectivement, chez J'ai lu en poche avec. Une très belle couverture, enfin, personnellement, je la trouve très belle. Ouais. Mais non, j'ai rien écrit cette année, j'étais plus occupé par la musique. En fait.
Celle qui n'avait pas parlé de Cthulhu, ça parle de Cthulhu surtout. Tu voilà. Peux nous en parler un petit peu de Cthulhu et pourquoi Cthulhu ?
Pourquoi Cthulhu ? C'est des questions compliquées. Hein.
Ouais. Surtout vachement ouverte. Hein.
Alors Cthulhu, pour tout le monde connaît Cthulhu, non, je sais pas. Cthulhu, c'est Lovecraft. Lovecraft, début du 20e. Auteur américain, un peu, on ne veut pas dire le père du fantastique moderne, mais quelqu'un qui révolutionne un peu le fantastique avec des histoires, avec des cosmiques qui l'effleurent. Hein. Il en parle très très brièvement et c'est tellement bien fait que ça donnait une sorte de mythe moderne. En fait, il y a énormément de trucs qui sont développés autour de Cthulhu et de ces bestioles-là. Notamment des jeux de rôle, des films, et puis le truc de Lovecraft, c'est qu'il est très très, il est très, il donne pas beaucoup de, il va pas dans la description, c'est très évasif, donc ça a permis à beaucoup de gens d'imaginer des choses sur ces bestioles, et à plein de cinéastes d'essayer de les représenter, se planter tous, voilà, c'était très bien.
Est-ce que c'était une commande? De faire un livre
de Lovecraft, ouais. Je vais tourner la table et puis.
D'actu SF.
Non, je n'ai jamais fait de commande. Je suis absolument incapable d'écrire pour faire des commandes à part pour des appels à texte sur des nouvelles, quoi.
D'accord. Parce qu'il y avait un mois Lovecraft.
Pas du tout. Je pense qu'en ce moment on est même dans des années Lovecraft parce qu'il y a c'est vraiment. Enfin, je sais pas. En tant que libraire, vous avez dû les voir passer les bouquins, mais ouais, c'est à la mode en fait. Mais moi, j'ai découvert Lovecraft quand j'étais ado et j'ai toujours. Ça m'a toujours tenté d'essayer de faire un truc À la base, je voulais faire un truc aussi horrible, enfin, pas aussi horrible, aussi angoissant que Lovecraft, et j'ai jamais été capable, donc j'ai fait un truc un peu plus délirant.
D'accord. Et ouais, donc il y a quand même un gros travail bibliographique derrière, enfin, parce qu'elle n'a pas peur de Cthulhu, mais elle va aussi visiter un peu d'autres, enfin, des sectateurs d'autres grands anciens.
J'ai relu les nouvelles les plus. Qui m'avaient le plus marqué, où il y a un rapport avec ces bestioles-là. En fait. Mais après, le travail biographique, il s'arrête là, parce que c'est Lovecraft. Hein. Je voulais me remémorer ce qu'il avait écrit.
D'accord, et pas ce qu'ont fait les suivants d'Hermès, etc.
Bon, non, parce que tout le monde, bah, non, parce qu'il y en a, beaucoup, et puis. C'est lui le maître, hein, enfin, imiter les imitateurs. Hein.
Alors, on va pas tromper tout le monde sur la marchandise, hein, c'est quand même.
T'as pas eu peur?
Non, alors c'est pas forcément ça. C'est que ton approche de l'écriture, de manière générale, pas que de l'écriture, hein, j'imagine, c'est beaucoup de parodies, beaucoup de drôleries, enfin, beaucoup d'humour, de l'absurde, des fois beaucoup d'absurde. Et je pense que là, t'es encore dans cette veine-là avec celle qui n'a pas peur de cul, mais j'ai l'impression que t'es là tout le temps, parce que quand je vois la petite de nouvelles, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, je ne les ai pas toutes lues, mais Sainte H, Douce H, Dieu est mon copilote, Apocalypse Flying Circus, Les aventures d'Alphonse d'Anita, Éléphant balèze.
Ça, c'est pour les enfants, donc.
Ouais, mais quand même, moi, j'aimerais bien le sortir, un titre comme ça. Il y en a une que j'adore aussi, c'est La démocratie est au bout des radis. Alors, j'aimerais bien la lire, pareil, pour savoir la chute. Et celle que je préfère, c'est Les ballons dirigeables, réplique de poupées gonflables. Qui est un hommage.
Qui est un hommage à Dick, et qui était le titre du recueil de nouvelles, en fait.
C'est ça. Ouais. Et dans.
Alors... Mais là, parmi ces textes-là, il y a des textes qui ne sont pas du tout drôles, hein, qui sont complètement. Noir et sombre et voilà. Ça m'arrive quand je suis de mauvaise humeur.
Quand tu reprends Lovecraft, je me dis Lovecraft c'est un petit peu l'anti-toi, c'est-à-dire que Lovecraft c'est quelqu'un de sérieux, c'est une personne
qui était mort.
C'est quelqu'un de mort. Enfin encore tu prouves que t'es vivant, ça se trouve.
Je suis là.
Il était raciste et misogyne aussi. Ouais. Alors toi, t'es un peu tout l'inverse de ça. T'as des valeurs différentes. T'es des punks, hein. T'as des valeurs plutôt humanistes.
Faut pas trop creuser,
peut-être. Mais alors, pourquoi t'as repris son mythe là? C'est pour se venger?
Non. Alors, c'est pas du tout pour me venger. J'ai pas du tout envie de. Enfin, le personnage de Lovecraft, il est. Enfin, en tant qu'être humain, il a beaucoup de défauts, probablement. Moi, je l'ai pas rencontré, donc pour moi, ça tombe un peu dans la littérature. Donc ça le détache du personnage. Ça aurait été un vrai enfoiré, il aurait eu vraiment des actions très très répréhensibles, j'aurais pas adhéré autant à ses propos. Il y a très clairement dans Lovecraft pas mal de trucs que j'avais pas vu quand j'avais 16 ans et qui sautent aux yeux aujourd'hui, qui sont un peu racistes, très misogynes. Mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est surtout le fait de ce délire, en fait, de ce délire de Lovecraft qui a pris beaucoup de gens, en fait. Et pourquoi? Et puis, bon, je vais pas cacher que j'ai bien aimé Lovecraft, déjà quand j'étais jeune et quand j'ai relu. Donc c'est à la fois un hommage, mais c'est plus une parodie, c'est pousser le truc, et de retourner un peu l'idée, de prendre un personnage qui est féminin, qui est l'héroïne, alors que dans les bouquins de Lovecraft, il n'y a quasiment pas de femmes. Il y en a quelques-unes qui ouvrent des portes de temps en temps, ou alors qui sont des sorcières maudites, mais sinon, il n'y en a quasiment jamais. Et effectivement, je pense qu'il avait un problème avec ça, quoi.
Alors justement, ton héroïne, Ingrid, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que elle, c'est assez amusant, elle se retrouve au milieu d'une histoire où il y a beaucoup de sectes, de gens qui veulent réveiller ou ne pas réveiller Cthulhu. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle n'a rien à battre.
Alors c'est l'idée aussi, c'est le, il y a pas mal de nouvelles de Lovecraft qui commencent par « je suis complètement fou »,« vous croyez que je suis fou, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire, blablabla, bla, 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 il ne faut pas que je vous le dise parce que sinon ça va déclencher je ne sais pas quoi, mais je vous le dis quand même ». Voilà. Et c'est, on part sur un narrateur qui a vu quelque chose d'indicible ou de surnaturel et qui va le partager avec nous, mais on va pas y croire, mais il faut qu'on le croie quand même. Là, c'est le contraire, en fait. Là, on part sur un narrateur qui ne veut absolument pas croire à ça et qui n'y croit pas, qui est à peu près monsieur, madame, tout le monde, qui va rencontrer dans le métro quelqu'un qui lui dit, écoutez, tu as été choisi, il faut que tu nous aides à réveiller Cthulhu. La première réaction, c'est quand même pas, ouais, trop cool. Genre, bon, ouais. Ah ouais, t'es sûr, allez, on y va, vas-y. Donc elle le connaît pas d'abord, il faut l'initier. Et ensuite, elle a pas du tout envie d'y croire, parce qu'elle a autre chose à faire dans sa vie que d'aller croire à des monstres à tentacules qui habiteraient sous la mer au fond du Pacifique. Et donc c'est des retournements qui sont autant paradis que des hommages à l'œuvre de Lovecraft, en fait. Et pareil, elle se retrouve confrontée à toutes ces... à cette idée de... je m'étais demandé ça quand j'ai commencé à écrire le livre. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que les gens ont quand même tendance à faire des sectes et à vénérer des trucs assez facilement. Et pour Lovecraft, on n'a jamais eu de fans de Dagon, de Lovecraft. Et en fait, après, j'ai appris qu'il y avait quand même des gens qui étaient persuadés que c'était vrai, en fait. Que de l'autre côté de la Terre plate, il y avait des... ou peut-être pas de... Mais non, mais c'est vrai, voilà. Donc je m'étais dit, ah bah merde, voilà. Je me suis fait piquer mon idée par des gens qui ont cru en vrai. Ouais.
Et puis il cherche encore la ville d'Ismouth, et puis dans le Maine, il la trouve toujours pas.
Il la trouve pas sur les GPS. Ouais. Parce qu'il y a une carte, dans Lovecraft, il s'inspire d'une vraie cartographie, en fait. C'est le Massachusetts, donc t'as des vraies villes, et puis t'as une ville qui n'existe pas, ou une ville qui n'existe pas, donc les gens, ah putain, elle est où. Elle est paru, hein, c'est un coup du gouvernement.
Il y a encore des gens, je crois, qui demandent à la bibliothèque qui doit exister, du côté de Miskatonic, si on peut emprunter le Necronomicon.
Ouais. Il y a même des éditeurs qui en ont sorti des copies, mais voilà. Je les trouve pas très honnêtes sur ce coup-là. Franchement, si j'avais le Necronomicon, je ne ferais pas une maison d'édition.
On s'était rencontrés en 2017 aux Utopiales pour la promotion du Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie. Et j'avais regardé, le livre avait été lu aussi, on va dire, meilleur roman de zombies de l'année sur un blog célèbre de fans de zombies français.
Ah, je savais pas.
Et je t'avais demandé comment il avait été reçu dans le milieu punk. Et je voulais savoir là si tu avais des retours chez les fans de Lovecraft et du mythe.
Aucune idée. Je connais personne qui soit... en fait, les gens que je connais en France qui sont fans de Lovecraft, c'est... ils sont fans de Lovecraft comme ils sont fans de Douglas Adams ou de Damasio. Ils n'ont pas des hôtels. Tu en connais, toi, des...
Hein ?
Ah oui. Non, mais ici, il y a des gens qui font des hôtels à Damasio, c'est sûr. Mais je veux dire, ça reste un intérêt littéraire.
Donc, du coup, là, en ce moment, tu n'as pas de projet littéraire en cours
Non, je vais tout arrêter, c'est trop compliqué, la vie.
On peut parler des Ludwig von 88
Ouais, j'ai un concert. Ouais.
Donc, retour discographique, quand même, de Ludwig von 88. Il y a eu un 5 titres qui est paru cette année en commerce. Ça faisait 20 ans, je crois, qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement en studio de Ludwig.
C'est ouf, hein. C'est dingue.
Alors, pourquoi ce retour
On a ouvert une tombe, on a trouvé un vieil enregistrement. Bah écoute, je sais pas, Johnny fait des disques, il est mort, donc nous on s'est dit, on est encore en vivant, autant faire. Non, mais on a refait des concerts il y a 3 ans, on a recommencé à faire des concerts après s'être arrêté pendant 15 ou 16 ans. Donc,
c'était de votre initiative ou vous avez été...
C'était une commande de QSF. Non, c'était pour le plaisir, en fait. Voilà. Et du coup... au bout d'un moment, on a dit on va faire un disque quand même. C'est un peu comme si tu déclames des poèmes sur la place du marché, puis à un moment, il faut quand même faire un livre. C'est transmettre un truc qui est pérenne, en fait.
Oui, il y a des groupes qui continuent de tourner sans faire de nouveaux albums. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr. De toute façon, les nouveaux albums, on les joue pas. Hein. Tous les gens veulent écouter les vieilles chansons. En fait.
Et ce 5 titres, il a été enregistré à Angers, d'ailleurs.
Le 5 titres et le 20 titres qui sort le
18 octobre. Ouais.
Et ça a été enregistré à Love Studio, Love Island Studio.
Et tu peux nous parler un petit peu de...
ce studio. Alors, c'est quelque part par là-bas, là. Je sais plus où c'est.
Pourquoi
Ah, parce que nous, on a une histoire angevine assez lourde, en fait. On a notre ingénieur du son qui habite dans la campagne angevine. Et dans les années 95, on avait un très bon pote qui avait un studio, qui était du côté de Bécon-les-Granites, que vous connaissez tous, de toute façon. Et on allait toujours là-bas, en fait. Et on avait pas mal de potes à Angers, du temps des thugs des années 80, 90. Voilà. Du coup, on avait moi j'avais un pote qui était là-bas, qui avait un studio, et je passais 3-4 mois par an à Angers. Voilà.
Et sur ce 5 titres, alors le deuxième morceau s'appelle En avant dans le mur.
Dans le mur, ouais. Ouais. C'est un truc pour la sécurité routière.
C'est un morceau assez énervé, enfin.
C'est... Ça, tu veux dire que c'est engagé politiquement?
Ouais. Enfin,
ouais, ouais. Bah, voilà.
Et du coup, est-ce que le climat peut-être politique, social actuel vous a donné envie de...
On a fait ce morceau-là il y a début 2018. Et donc après, oui, ben, on était en studio quand ça commençait à chauffer avec les histoires de gilets jaunes. Voilà. C'est des morceaux qui finalement collent à l'actualité, parce que je pense que avant que ça pète, l'actualité, ben, elle est là, quoi. C'est très spirituel ce que je dis.
Et je me disais que...
Et d'ailleurs, sur ce disque, il y a un morceau qui s'appelle Hansel et Gretel, sur l'album que tu n'as pas entendu, dont les refrains sont des noms des entités cosmiques de Lovecraft. Donc Dagon, Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, et je ne sais plus, Dagon encore. Shub-Niggurath aussi, ouais. Il y a tous les grands qui sont là, on a fait une sorte de... On a juste oublié Astur, parce que je trouve qu'il est pourri ce nom-là. Je sais pas où il l'a trouvé.
Album qui sort sur le label des Bérus.
C'est pas vraiment le label des Bérus, c'est un label qui s'appelle Archives de la Zone Mondiale, qui a été fait suite au folklore de la Zone Mondiale, qui était vraiment le label des Bérus, mais qui était fait par des gens qui passaient là-dessus. C'est une sorte de truc un peu entremêlé, mais c'est un label à part entière.
Et d'ailleurs, sur le Saint-Titre, il y a un morceau assez... Je me disais que musicalement, ça sonne toujours comme du Ludwig. Hein.
Ouais, je vous rassure.
Et alors, par contre, le dernier morceau, il y a quand même un côté un
c'est
peu
celui-là, ouais. C'est celui-là qui s'appelle Hansel et Gretel.
Il y a un morceau sur l'autotune aussi.
Voilà. Mais là, on a fait une version autotune. Ouais. Okay. Parce que des fois, dans le studio, on n'a plus envie de bosser, donc on fait n'importe quoi. ça passe vachement bien.
Ou alors, vous moquez parce que des fois, parce qu'on fait un bouquin musicaux plus modernes.
Ouais. Mais on a plus de liberté, parce que sur les bouquins, si tu te mets à écrire n'importe quoi, après, les éditeurs, ça les fait pas marrer.
C'est quoi le plus dur, en fait? C'est monter sur scène au Hellfest ou d'être devant une page blanche et pas savoir quoi écrire?
Monter, tu vas au Hellfest, c'est un concert comme un autre. Hein. Nous, on n'a jamais tellement sacralisé le truc, donc on fait le concert. Hein. De toute façon, moi, je m'en fous. Moi, je monte sur scène, j'ai plus mes lunettes, donc je veux plus rien. Hein. Qu'il y ait 20 personnes ou 200 000, c'est pareil. Ça fait juste plus de bruit. Pour la page blanche, c'est juste que au bout d'un moment, t'en as marre, tu vas faire autre chose. Quoi.
Et Ludwig, vous êtes dans une longue tournée là quand même, et j'ai vu que vous étiez passé au Canada au mois de juillet. Je me demandais comment vous avez été accueilli, parce que ici en France, Ludwig von 88, c'est un groupe culte, je pense, mais alors est-ce qu'au Canada, comment vous...
Ben, au Canada, ouais, un peu, enfin, culte, on va pas dire, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'on n'était pas passé depuis 93, donc il y avait vraiment des gens qui avaient envie de voir de Ludwig. Donc c'était assez folklorique quand même. Et puis c'est un beau pays, et puis c'est des gens vraiment sympas en fait. Donc ouais, c'était très bien. Je vous conseille le Canada pour vos vacances. On voit des ours, on voit des castors.
Avec le passage Cook.
Ouais.
Non, je voulais juste vous questionner sur votre rapport à l'écriture, entre les chansons et le texte. Il y a deux questions. La première question, c'est de savoir, vous vous confrontez certainement aussi à travers les écrits de vos chansons à votre groupe, là vous le soumettez, idem peut-être avec votre éditeur. Quel rapport avez-vous avec votre éditeur? Est-ce qu'il remanie beaucoup? Est-ce que vous avez un gros travail avec lui de réécriture ou pas? Ou alors il vous laisse libre totalement?
Il me laisse libre parce qu'il est gentil. Donc je lui amène un livre que j'ai relu, que j'ai fait relire. Mais après, bon, ben voilà, il corrige quand même. Hein. Il est éditeur, il va me faire des suggestions, éventuellement s'il y a un passage qui est trop long, trop court. Donc ça reste assez aussi. Mais bon, voilà. Mais pas pareil, hein. les chansons, je les fais, il n'y a pas un comité de censure qui me dit oh, « tu vas pas changer ce mot-là ». Et puis les chansons, c'est différent. Il y a des chansons qui sont magnifiques, quand si on prend les paroles sans la musique, ça devient une platitude fabuleuse. Donc c'est pas la même chose, on peut avoir des très belles chansons avec des paroles qui sont pas très intéressantes. On peut difficilement avoir un très bon roman si c'est mal écrit, si c'est pas intéressant. Après, le rôle de l'éditeur, c'est quand même d'avoir d'être une vue extérieure, en fait, de dire voilà. Moi, en tant qu'écrivain, je vais passer 3-4 mois à faire que ça, donc j'ai aucun recul sur le truc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de le faire lire par 2-3 personnes, dont l'éditeur. Voilà. Mais il n'est pas très... Bon, après, je pense que ça dépend des auteurs.
C'est qu'il n'y a pas besoin, de, justement.
Peut-être que c'est tellement c'est génial que je joue avec. Voilà. Il est heureux, il regarde le ciel et les mouettes en disant « Ah, c'est génial, Béroca a fait un livre, enfin. »
Ouais. Et puis, donc, je ne les ai pas lus, donc, mais je me pose la question, au regard des titres, des sujets, je me dis, Karim Berouka, peut-être qu'il développe peut-être dans ses romans ce domaine-là, mais il y a évidemment une dimension sociale, une dimension politique, une dimension dans vos chansons. Elles sont également aussi présentes dans vos livres.
Alors oui, surtout dans le club des punks contre l'apocalypse, puisque c'est les punks qui décident de créer, enfin de reconstruire le monde sur des bases plus égalitaires, plus libertaires. Donc oui, effectivement, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Donc tu lues un peu moins, mais un peu, ouais, toujours un peu sur les personnages. Après, c'est pas non plus le truc principal. Plus sur les punks, d'accord. Je sais pas, vous les avez lus.
Le grand méchant dans le club des punks contre l'apocalypse, c'est pas les zombies, hein, c'est le MEDEF.
Oui, c'est normal, il fait plus peur.
Je me demandais s'il y avait des thèmes que tu avais envie d'aborder, enfin des grands thèmes un peu classiques de la SFFF, parce qu'on a eu Féoui des guillotines, c'est plutôt de l'urban fantasy, on va dire. Hein, avec ça, aussi ouais. Un côté polar. Ouais.
Ouais.
Le deuxième. Un livre d'invasion de zombies, voilà.
Et
puis le troisième, le mythe de Lovecraft. Est-ce que donc il y a certains thèmes ou certains univers, les classiques de la SFFF
Ouais, il y a des univers que je voudrais. Ouais, c'est moins drôle ça. si, il y a plein de trucs, mais il faut juste trouver un angle d'attaque ou une idée qui tienne la route sur un roman. Quoi. Sinon, ouais, j'ai des cahiers pleins d'idées, mais pas plein de romans.
Et du coup, le titre, il vient avant ou après ?
Pendant, je veux dire. Pendant, ouais. Tulu, c'est à la fin, je pense, après, ouais. Des fois, j'ai des titres à la con sur les romans, puis avant de les envoyer à l'éditeur, je dis, on va pas mettre ça, quand même. Mais le club des punks, je pense que c'est venu assez tôt, quand même. Si c'est des titres avec des mots-clés, en fait. C'est comme pour repérer, c'est vrai. Punk, club, non, club, zombie, apocalypse. Ouais, mais ça, c'est j'ai lu, ils veulent vendre des livres.
Bon, ben, on va arrêter là. Alors. Merci, Karim. Et donc,
je vous en prie, c'est tout le plaisir pour moi.
Merci.
Answer.
ça parle de Cusco. C'est le meilleur Disney qui ait jamais.
On dit pas Cusco.
Bah moi, c'est un peu comme dire Cthulhu et Cthulhu quoi.
Voilà, c'est ça.
Cusco.
C'est Cusco. Ah. Non, non, mais c'est le meilleur Disney qui a jamais existé, Cusco.
Je sais pas si on l'a entendu là d'ailleurs. Karim Berouka nous disait qu'il y avait une page Wikipédia simplement sur la prononciation de Cthulhu.
Ouh,
faut que j'aille les débats qu'il y a, effectivement, ouais. C'est nécessaire.
Et donc, c'était Hansel et Gretel, le titre de leur dernier album, 20 chansons optimistes pour en finir avec le futur. Et voilà, ça se termine avec Yoxotot, Azatot et tout. Et on va rester avec eux, Antoine, puisque tu vas nous parler d'un jeu de cartes. Avec des grands anciens dedans.
Oui, tout à fait. Oui, alors du coup, le principe d'Horror Arkham, bah, on est sur un jeu dans la lignée de tous ceux qui ont été adaptés de l'univers de l'Appel de Cthulhu. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un jeu de rôle, plein de jeux de rôle. Il y a eu plusieurs jeux de société. Il y a des bouquins, des BD, des jeux vidéo, de la musique. Voilà, donc on est sur un univers qui n'en finit pas de faire rêver les gens et de faire sombrer dans la folie petit à petit.
De faire cracher les thunes.
Exactement. Donc le départ d'Horreur Arkham, c'était un jeu de plateau classique où il fallait sauver Arkham des grands anciens qui arrivaient par paquet de 12.
Ah ouais, quand même. Ça fait...
Ouais, ça fait beaucoup d'un coup. Déjà, un, c'est compliqué, alors 12, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on était sur un jeu assez, assez costaud au niveau règles, au niveau temps de jeu et tout. Et donc en fait, la boîte qu'il publiait a décidé de faire une refonte il y a quelques années maintenant. Et elle a décidé d'explorer l'univers des jeux de cartes un peu à collectionner.
En fait, on part sur un deck building.
Ouais, tout à fait. Donc le principe, c'est comme dans n'importe quel jeu, sur l'appel de Cthulhu, parce qu'on varie les prononciations, on varie les plaisirs, vous choisissez un investigateur qui va se retrouver confronté à l'horreur absolue, mais petit à petit. Donc il a des compétences, un seuil de santé mentale et des points de vie. Et son équipement, c'est un deck de cartes que vous allez construire avant le scénario.
Alors, j'apporte encore une précision, c'est que quand on vous dit de choisir votre investigateur, vous avez plusieurs classes différentes, avec chacun leur technique et leur spécialité. Il y a forcément l'agent qui va encaisser les coups, qui va être ce qu'on appelle les tanks dans les jeux de rôle ou jeux vidéo. Donc c'est la personne qui va attirer les monstres et qui est là pour encaisser de manière à ce que les autres puissent survivre. Et puis il y a toujours des sorciers, il y a toujours des voleurs, il y a toujours des tireurs, etc.
Ouais, de base vous avez 5 classes qui ont chacun un peu leur style de jeu et qui en fait ont une classe principale et qui jouent après avec une autre en plus petite. Et donc ce qui se passe, c'est que vous avez votre deck, vous partez, donc le jeu en fait il est jouable tout seul, à deux, avec le jeu de base, et vous pouvez monter jusqu'à 4 joueurs, mais là ils sont futés, il faut racheter un deuxième deck ou trouver quelqu'un d'assez gentil pour vous le prêter. Moi c'est ce que j'ai fait, voilà, trouvez-vous des amis. du coup, une fois que vous avez créé votre deck, le scénario il fonctionne sur le principe d'un autre deck. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir deux paquets, un paquet intrigue, un paquet acte. Le paquet acte, c'est celui que vous voulez faire avancer. Donc dès que vous en remplissez une condition dans le scénar, vous retournez la première carte du paquet et il avance. Exemple, si vous avez trouvé suffisamment d'indices dans les lieux où vous vous baladez, vous pouvez le faire avancer. Le truc, c'est que comme dans tous les jeux qui sont adaptés de l'appel de Cthulhu, le monde avance sans vous. Et donc vous avez à chaque fois une phase de jeu où le jeu va essayer de vous péter la tronche dans un tour.
À base de ghouls, d'horreurs, de démons, de...
Donc en gros, vous avez un certain nombre de tours avant que le deck intrigue, il avance et qu'il se passe des choses horribles. Et à chaque tour, vous avez des trucs qui sortent de tous les coins pour essayer de vous pourrir. Donc ça peut être des monstres, ça peut être des embûches. C'est un autre petit deck, du coup, qui est toujours créé d'après le scénario. En fait, dans le jeu de base, il y a plusieurs types de monstres qui arrivent. Il y a les cultistes, il y a les ghouls, il y a...
Cultistes, c'est pas des monstres, hein.
Oui, mais
ça
c'est
peut
des
être ton voisin,
hein,
de palier.
Voilà. Ils sont pas très gentils. Hein.
Bah non.
Et après, en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fonction du scénario, ils ont toujours un petit twist de règles assez intéressant. Typiquement, avec Pierre-Marie, le dernier qu'on a fait, en gros, c'était trois scénarios qui avaient le même déroulé, mais qui se jouaient en parallèle. Et donc, on pouvait jouer avec trois groupes différents. Et
oui, alors voilà,
ils sont assez imaginatifs.
Tu vas passer très rapidement dessus, mais en fait, tu commences le jeu avec un deck qui est donc le deck des actes, où tu sais où est-ce que tu vas. Tu finis cette partie-là qui peut durer entre 1 heure, 2 heures, ouais. Et en fait, tu repars sur un autre scénario. Et ton premier scénario laisse des choses. Donc, quand tu fais ta campagne, tu peux le faire avec 4-5 personnes de différentes à chaque fois, et ça sera jamais la même chose puisque tu ne vas avoir sauvé des personnes, tu vas pas avoir eu le temps de les sauver. Tu vas, même si tes personnes nage meurt, tu continues ton scénario avec d'autres personnages. Il y a la question d'expérience qui te permet d'avoir des nouvelles cartes et donc d'améliorer ton deck, de l'optimiser. Donc c'est un jeu qui est vachement interactif et qui est basé sur, sur l'expérience. C'est un deck évolutif, c'est un jeu évolutif.
Mmh. Côté ouais. jeu de rôle, quoi.
C'est ouais, ça. Ils ont intégré quelques petites mécaniques de jeu de rôle qui sont assez sympas. Et ce qui est cool, c'est que les scénars sont aussi assez rejouables, parce qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils créent plusieurs versions d'une même carte, par exemple d'un méchant, pour que, par exemple, un personnage... je me rappelle d'un scénar d'enquête, où le principe, c'est d'essayer de trouver certains personnages dans la ville où vous êtes, et il y en a certains qui peuvent être, du coup, des cultistes ou pas. Et en fait, ça, c'est déterminé aléatoirement dans le, au tirage. Donc en fait, les scénars ont une bonne rejouabilité. Puis comme c'est un jeu de cartes, ça reste assez, assez aléatoire. Et ce qui est très sympa, c'est que bah, il est très dur. Donc du coup, à finir, c'est un peu compliqué. Mais le mode campagne, ce qui est chouette, c'est qu'il du coup, il prend vraiment en compte le fait d'optimiser son deck. Donc l'expérience est vraiment intéressante à jouer en mode campagne. Un scénar comme ça, c'est sympa. Mais le fait de vraiment pouvoir réfléchir à comment on va construire son, son personnage et l'améliorer, et vraiment du coup choisir des rôles... fait que du coup c'est un jeu assez, assez complet. Le seul bémol dessus, c'est que bah, du coup il coûte un peu rush, parce que ils ont mis en place un modèle économique qui est très simple. C'est que la boîte de base, vous pouvez faire 3 scénarios dedans, et ensuite si vous voulez continuer un petit peu, bah, vous pouvez refaire les mêmes scénarios, mais au bout d'un moment c'est un peu chiant parce que vous connaissez l'histoire. Mais si vous voulez faire d'autres campagnes, il faudra racheter à la caisse et racheter plusieurs paquets.
Alors pour les personnes dont ça ne pose pas de problème, c'est un jeu qui est très étendu, puisqu'on doit être à une bonne vingtaine de scénarios différents.
Ouais, il y a 5 campagnes différentes, et dans chaque campagne il y a une dizaine de scénarios. Donc on est même à
on a beaucoup plus, donc cinquantaine. On peut jouer beaucoup. C'est un jeu, c'est pas un jeu d'apéritif. Hein. On se pose pendant, je vous disais, une heure et demie quand même pour jouer à deux.
C'est-à-dire c'est que un plus bon on soirée, est, moi, je trouve.
Plus on est nombreux, plus ça devient long, forcément, ouais. puisque c'est chacun son tour.
Ouais.
Mais on s'ennuie pas pendant que les autres jouent, du coup.
Non, 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 non. Non,
à deux c'est sympa parce que c'est coopératif. Donc du coup, il y a vraiment un côté faire ses tours ensemble, et comme chaque joueur a 3 actions, les tours passent vite.
Oui, il y a vraiment un côté où stratégique, où on se met d'accord sur qui fait quoi, et puis on lance après on lance le déroulé. Non, non, c'est vraiment pas mal.
Ouais.
Ok. Bon, Pierre-Marie, on a le temps de parler de ce livre-là qui est ouvert devant toi.
Je vais juste le teaser parce que je le chroniquerai une prochaine fois.
D'accord.
J'ai envie de parler des Utopiales, tu m'excuseras, c'est le plus important de la soirée.
Ouais, ok.
Je vais juste le teaser, et en fait, voilà, ce soir, on est sur des jeux de société, des films style Halloween, pour se détendre, pour se vider la tête et surtout pas trop réfléchir, sauf pour les jeux de société. Et moi, je me suis, dans ma bibliothèque, j'avais commencé, parce que j'aime beaucoup l'auteur, un livre, Laurent Montezé. Je le prononce encore mal, hein, comme Cthulhu, ça, il n'y a pas de souci. Je m'excuse auprès de lui. C'est un auteur qui est spécialisé dans les thrillers horrifiques et dans l'ancienne collection Frissons qu'il y avait chez Fleuve Noir. Donc, il faisait des choses qui étaient quand même très haletantes et très prenantes. Et là, il a sorti chez Malpertuis en 2016 un livre qui s'appelle Le Rappeur Oberlander.
Le rappeur, pas le rappeur.
Le rappeur, excuse-moi, ma langue a fourché, j'aurais des anecdotes à te
raconter.
Le Rappeur Oberlander, qui est basé sur donc un personnage SS. Oberlander, c'était un personnage SS de triste renommée, et toute l'intrigue est basée sur Marcus, j'ai noté son nom, Marcus Upper Whitle, qui est un détective privé londonien et qui est issu d'une longue lignée de Marcus, et là je vous en renvoie à toute la mythologie chrétienne, et son taf c'est d'aller pourrir des reptiliens qui se sont emparés du régime SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je voulais teaser, je vous en raconterai plus la prochaine fois. Prochaine fois.
Bon, alors, les Utopiales, donc les on attaque Utopiales, notre rubrique alors, agenda.
Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis près d'une dizaine d'années, les Utopiales sont l'un des plus gros salons science-fiction, fantastique, fantasy.
C'est le plus gros mondial. Salon francophone.
C'est le plus gros salon francophone et un des plus gros salons mondiaux. C'est quand même pas mal du tout. Ça se passe à Nantes.
Moi, je dirais que c'est plus science-fiction que fantasy. Quand
voilà,
même, fantastique.
Ouais. J'y viens. À la base, le salon est fait pour mettre en rapport les sciences dures et la science-fiction. Ces dernières années, il y a une ouverture, notamment grâce à Jeanne Debat, qui est devenue la directrice artistique et qui a pu faire des ouvertures vers des auteurs et des... tout ce qui est les arts ludiques et les arts graphiques à destination du fantastique et de la fantasy. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues pour ça. Mais il y a quand même une énorme tendance scientifique qui est présente dedans. L'année dernière, ils ont accueilli 70 000 visiteurs, si je me souviens bien. C'était un chiffre qui était énorme. Ça se passe à la fois sur le centre des congrès de Nantes et puis sur le lieu unique, puisqu'il y a pas mal d'expositions et de
ouais,
conférences.
Quelques petits trucs, ouais.
Cette année, je pense notamment à un de mes auteurs fétiches, Thomas Cédurant, qu'on connaît sur le podcast La Chaîne chaîne YouTube La Tronche en Biais, qui est donc de la vulgarisation scientifique, qui sera au lieu unique pour parler de zététique, qui est donc la remise en question de toute chose par un questionnement scientifique. Cette année, le thème, c'est coder-décoder. Donc, dans toutes ces assertions, comme chaque année, ils tentent un thème qui puisse s'appliquer aux sciences, à la sociologie, on va dire les sciences dures, les sciences molles, et puis la littérature, et puis les sciences appliquées. Donc, on va partir de coder-décoder à la fois dans les gènes, à la fois dans les schémas sociaux, à la fois dans l'informatique, et puis aussi les codes du fantastique et de la science-fiction. Ils annoncent 150 intervenants, si je me souviens
combien
bien.
Combien t'as dit ?
150.
Ah ouais, c'est bien possible.
Ils annoncent ça.
C'est assez énorme.
130 invités et 171 rendez-vous littéraires, scientifiques et artistiques.
Ah bah, il y a quatre salles, en fait, où il y a des conférences en simultané, des conférences d'une heure. C'est toujours une heure, entre 9h du matin et 20h le soir.
Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer ?
Bah, on y joue aussi.
Oui, les arts ludiques, ils sont fortement représentés.
Oui, il y a une salle, plusieurs salles même. Il y a même une salle pour les enfants où vous pouvez jouer toute la journée si vous voulez, en fait. Il y a une nuit ludique le samedi soir qui est payante, qui est un petit peu à part, où vous pouvez jouer toute la nuit, en fait.
Le dimanche, concours de cosplay.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, toujours le cinéma qui est mis à l'honneur avec notamment le prix... Canal Plus et le prix du public. Alors, c'est quoi les films sélectionnés ?
Oh ben. Alors, moi, j'ai noté The Room, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Christian Volkmann, un Français qui avait fait un film d'animation, mais c'était il y a 15 ans, je crois qu'il s'appelait Renaissance, un dessin animé de SF en noir et blanc. Et il n'avait pas fait de long métrage depuis, et là, il revient avec un film où il y a des. Je crois qu'il y a des. Il a fait un film un petit peu international, et qui vient d'être primé au Festival du film fantastique de Busan, en Corée. Le film cartonne pas mal et là je pense qu'il sera en avant-première française.
J'ai cru voir un film aussi animé, style animé japonais qui serait mis en avant.
C'est Wuthering With You aussi, qui apparemment a complètement cartonné au Japon, je crois. Un des plus gros succès du cinéma d'animation japonais qui passerait aussi en avant-première. Ce sera samedi aussi, samedi après-midi.
C'est pas un studio Ghibli ? Justement
c'est quelqu'un, je crois, qui vient. Je ne sais pas si c'est Ghibli exactement, mais je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé là-bas.
C'est Makoto Shinkai.
Bon. Sinon, en cinéma, il y a aussi pas mal de rétrospectives. Autour du thème codé-décodé, il y a aussi pas mal de documentaires, notamment des documentaires scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les utopiales ? Quelques expos aussi, quand même, dans la Cité des Congrès.
Oui, moi je pense notamment à la venue de Jodorowsky, qu'on ne voit pas très souvent dans le public.
Et d'ailleurs, qui viendra présenter Le voleur d'arc-en-ciel, un film qu'il a, au 1990, je crois, qui avait dû être remonté par le producteur, ça ne lui avait pas plu, et là il vient présenter sa propre, son director's cut.
En auteur étranger, anglophone, je pense à Ada Palmer et à Kristen Stewart.
Best à noter des gens aussi.
Qui viennent donc présenter. Kristen est une invitée de ActuSF qui a fait récemment une table ronde notamment sur la littérature engagée LGBTI. Et Ada Palmer qui a sorti un roman chez Le Bélial qui cartonne chez tous les critiques.
Dont on retrouvera le titre.
Donc c'est à peu près ça. Moi je vous parle de tête. C'est vous qui avez les papiers, je vous rappelle.
Okay. Mais il n'y a pas tout sur les papiers.
Vous avez autre chose à ajouter ? Donc ça dure pendant 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est une journée quasiment complète, à peu près 9h, 20h. C'est à peu près 10€ par jour l'entrée max. Voilà. Moi, je voulais dire qu'il reste 2-3 jours là, pour aller voir l'exposition Voyage en science-fiction au J, notamment l'exposition de l'appel à illustration autour de jeunes angevins avec des trucs qui sont plutôt pas mal. Je voulais dire quand même pour Halloween aussi, il y a une soirée aux 400 coups, donc jeudi avec, qu'est-ce qui diffuse Zombie, Dawn of the Dead, donc le film de Romero, et puis en deuxième partie de soirée, c'est un Carpenter.
Le Prince des Ténèbres.
Ouais, qui est assez génial aussi.
Alors moi, il y a juste les prix dont on n'a pas parlé.
Pour les Utopiales.
Pour les prix, le prix Utopial, donc la trilogie Trademark de Jean Barré. Aux éditions du Bélial, Colonie de Jeunefort aux éditions du Bélial, Dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski aux éditions de Noël, Elstride de Christian Léourier aux éditions du Bélial et Les derniers jours du nouveau Paris de China Melville aux éditions, excuse-moi, au Diable Vauvert. Donc c'est quand même un prix qui est vachement récupéré par le Bélial. Il faut savoir notamment que le grand chef des Utopiales, Roland Lehoucq, fait ses sorties de fantastique, ses sorties littéraires fantastiques, puisqu'il est, il est titulaire de la chaire d'astrophysique aux éditions du Bélial. Donc c'est une maison à suivre. Pour le prix Utopiel Jeunesse, il y a In Real Life avec un magnifique accent aux éditions Milan. La Voix Verne de Jacques Martel aux éditions Mnemos. Le Cirque Interdit de Célia Flo aux éditions Scribo.
Qu'on avait reçu au sein de l'Imaginaire.
Qui était aux éditions Imaginaire. Marqué d'Alicia Broadway aux éditions Pocket Jeunesse. Rêve scientifique, 8 nouvelles de science-fiction. De Jean-Noël Blanc, Jeanne Benhamer, Patrice Favaro, Gudule. À son âme, Johan Elliott et Colin Thibet aux éditions Thierry Magnier. Il y aura aussi les prix Julien Verlanger et le prix Joël Charpentier qui sera remis, mais là dessus j'ai pas la sélection.
Allez, on termine là pour Imaginaire, on se retrouve dans deux semaines sur le 101.5. On termine avec je vous ai mis une musique d'Halloween quand même, c'est
la reprise de This is Halloween par Marilyn Manson.
Non, pas du tout. C'est le dernier morceau, je pense, un des derniers morceaux, dernière BO de Lalo Schifrin. C'était en 2015 pour la musique du film. Merde.
La musique du film. C'est pas mal comme
Tales of Halloween, qui est un film. À, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a 10 histoires en fait. Je sais pas comment t'appelles ça, un omnibus ou je sais pas quoi.
Ah bah un petit peu à la Tales of Valentine, je sais plus quoi, Valentine. Bref. Ou alors Love Actually. C'est ce type de film où t'as plein de...
Un film choral.
Ça dégouline dans le cornet, dans l'image. Sur le 101.5 dans quelques minutes. Bye bye, bonne Halloween.
Bonne soirée.